Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui prend aujourd'hui la direction du Brésil.
Des centaines de partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont envahi le cœur du pouvoir à Brasilia, le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel saccagés.
Des lieux de pouvoir pris d'assaut et désormais la traque des émeutiers et bien au-delà, des financeurs, des organisateurs et la question des complicité. Qui sont celles et ceux qui ont marché sur cette place des trois pouvoirs au cœur de la capitale Brasilia? Comment se sont-ils organisés? Ont-ils bénéficié de la bienveillance des forces de l'ordre? Autant d'enjeux que l'on va évoquer avec l'envoyé spécial de RTL au Brésil, Julien Fautra. Bonjour à toi.
Bonjour.
Et avec Juliette Dumont, maîtresse de conférence à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Bonjour à vous.
Bonjour.
Le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême envahis, donc saccagés même, et cela pendant près de 4 heures. En fait, au départ, Juliette Dumont, il y avait une manifestation prévue et annoncée hein, depuis une semaine par les partisans de Jair Bolsonaro.
Oui, ce n'est pas une surprise et ce n'est pas non plus une surprise que cette manifestation ait été tout sauf pacifique et rentre dans la définition classique de la manifestation. Puisque là, on commence hein, à découvrir, mais les messages qui étaient envoyés sur les réseaux sociaux dans les jours et les semaines qui ont précédé, il était bien question hein, de prendre d'assaut eh bien, les trois bâtiments représentant les trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc oui, c'était tout sauf imprévisible ce qui s'est passé.
Une manifestation qui a donc dégénéré. Des centaines de personnes ont été arrêtées, placées dans un hangar. Et tu as pu, hein, pour RTL, Julien, avoir accès à des vidéos au sein de ce centre. Ici passe quoi? C'est un lieu de détention provisoire, d'interrogatoire?
Oui, en France, on appellerait ça, je pense, détention provisoire, effectivement. C'est-à-dire que après l'envahissement, l'intervention de la police militaire, on évalue entre 1500 et 2000 personnes qui ont été arrêtées et ces personnes ont été transférées vers un centre qui est un tout petit peu à l'extérieur de Brasilia. Et pour pouvoir, le mot stocker est pas bon, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire, pour stocker ces personnes, il y a ce grand gymnase. Il y a des panneaux de basket, il y a une sorte de petite tribune sur les côtés. C'est du dur, hein, donc les gens dorment là, les gens hurlent à l'intérieur. Il y a des gens révoltés, il y a des gens qui manquent de quoi manger. Les conditions d'hygiène sont pas terribles, enfin en tout cas sur les 48-72 premières heures. Les conditions d'hygiène commençaient à se dégrader. Il y a les proches, d'ailleurs, des personnes qui ont été arrêtées, qui apportaient des odorants, de quoi se changer. Enfin bref, c'est vraiment 1500 personnes qui ont été stockées avant, une par une, d'être interrogées par la police.
Et tu parlais de ces gens, de ces proches qui sont venus aux abords de ce centre. Je voudrais notamment qu'on écoute ce que te disait cette dame devant ce gymnase, ce hangar.
Je ne vais pas abandonner pour mes petits-enfants et pour mes arrière-petits-enfants. Je ne vais pas abandonner pour le jeune homme qui n'a pas le courage de se battre. Notre président Bolsonaro n'a pas perdu l'élection. C'est un mensonge, ça. Il a gagné avec plus de 65 millions.
Voilà, on entend ce que dit donc cette Brésilienne au micro de notre envoyée spéciale, Juliette Dumont, notamment le fait que l'on conteste la victoire du président Lula. Ces émeutiers, justement, qui sont-ils? Ce sont des complotistes, des nostalgiques de l'ancien président Bolsonaro?
Alors, juste si je puis me permettre, vous avez parlé de manifestation qui a dégénéré. C'est pas une manifestation qui a dégénéré, il était prévu d'envahir. Hein. Ces gens avaient prévu d'envahir les trois bâtiments dont on parle, donc ce n'est pas une manifestation qui a dégénéré. Oui, ces gens sont les partisans de Bolsonaro, du bolsonarisme. Ce sont des gens qui s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux, notamment sur la messagerie Telegram et sur la messagerie WhatsApp. Et je rappelle que ça fait plus d'un an que Jair Bolsonaro avait annoncé hein, que s'il perdait les élections, c'est que les élections seraient truquées et que donc il faudrait se préparer à lutter. Donc c'est quelque chose que Bolsonaro et ses proches préparent depuis, encore une fois, plus d'un an. Et depuis le second tour du 30 octobre dernier, d'abord Bolsonaro a mis 3 jours, hein, je vous le rappelle, à reconnaître du bout des lèvres sa défaite. Il a reconnu sa défaite, il n'a pas reconnu la victoire de Lula. Et que depuis lors, eh bien, les appels à la résistance au nouveau gouvernement se sont multipliés, tant au Brésil d'ailleurs qu'aux États-Unis, puisque Steve Bannon a lancé dès le 31 octobre un hashtag qui s'appelle Brazilian Spring pour encourager les partisans de Bolsonaro, eh bien, à se soulever pour contester le résultat des élections et pour reprendre le pouvoir et faire valoir leurs droits. Donc ces gens qui étaient présents sur la place des trois pouvoirs sont totalement endoctrinés par une propagande qui sévit depuis bien longtemps, hein. Et ces gens qui étaient sur la place des trois pouvoirs, ces manifestants, sont vraiment persuadés qu'ils sont dans le camp du bien face au camp du mal. Ils sont réellement persuadés que les élections ont été truquées. Ils sont réellement persuadés que le retour de Lula au pouvoir signifie l'établissement d'une dictature de gauche. Pour les gens que votre correspondant, et c'est notamment cette femme, a interrogé, l'emprisonnement, la détention provisoire de ces personnes séditieuses est un scandale. Beaucoup comparent, hein, ce gymnase à un goulag. Alors on peut effectivement déplorer certaines conditions, notamment d'hygiène. Mais je rappelle que toutes les personnes présentes dans son gymnase ont accès à leur téléphone portable et ne se privent pas de les utiliser, qu'il y a eu un sénateur bolsonariste qui leur a rendu visite et qui les a encouragés à publier des témoignages et à continuer la lutte. Donc voilà, pour apporter quelques précisions.
Et sur ce que disent ces bolsonaristes, c'est vrai qu'il y a un témoignage, Julien, que tu avais recueilli, qui m'avait aussi frappé. Un homme qui disait que finalement, ce mouvement et cet assaut, c'était tout ce qu'il y avait de plus démocratique. Alors, Julien, toi qui es sur place, qu'est-ce que tu as vu aux abords de ce centre? Est-ce qu'on peut dire que tous les âges, toutes les catégories sociales sont représentées au sein de ces émeutiers qui ont été arrêtés au Brésil après ce saccage des lieux de pouvoir?
Oui, c'est un peu moi ce qui m'a effectivement frappé sur le profil des bolsonaristes, c'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'il y a des femmes, des hommes, des chefs d'entreprise, des jeunes, des vieux, des salariés. Et en fait, c'est une représentation de la société. Alors peut-être que Juliette Dumont a fait une analyse plus fine que le reporter que je suis, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un profil. Moi, ce qui m'a marqué dans le fait que des personnes apportaient des vivres, et puis quand ils apportaient des vivres, ils continuaient le discours sur les fake news, sur le complotisme, sur l'élection qui serait pas régulière, c'est qu'en fait, il y a une sorte de. Je ne sais pas si on peut appeler ça une communauté, mais en tout cas, j'essaie de comprendre que des gens prennent des bus pour aller faire des manifestations toutes les semaines, qui parlent entre eux, que des gens venaient apporter des vivres, mais pour un ami qu'on avait rencontré lors d'une manifestation. C'est-à-dire que c'est vraiment créé comme ça un terreau extrêmement solide de gens fervents sur des valeurs qui leur sont communes et qui sont prêts à militer, qui sont prêts à aller extrêmement loin. Et ils veulent montrer de plus en plus à quoi ressemblent ces conditions de détention. Je pense par ailleurs qu'il ne faut pas non plus en faire trop, c'est-à-dire ils ont été là 48 heures. Alors, je conçois que ce n'est pas un endroit extraordinaire, mais les conditions, et que les conditions sont difficiles, mais tout de même, ce n'est pas le goulag.
Ouais, et il y a justement ces émeutiers, mais le regard se porte aussi désormais au-dessus. D'ailleurs, très vite, hein, le président Lula a souligné sa détermination à remonter la chaîne de responsabilité à l'origine de saccage.
Je veux vous dire que toutes les personnes qui ont fait ça seront identifiées et punies. Elles doivent comprendre que la démocratie garantit la liberté, la libre communication, la libre expression. mais elle exige que les personnes respectent les institutions créées pour renforcer cette démocratie. Nous allons découvrir qui a financé ce mouvement. Et tous paieront ce geste d'irresponsabilité, ce geste antidémocratique, ce geste de vandale fasciste.
D'abord, justement, Juliette Dumont, sur le financement de ce mouvement. On a déjà des pistes, il y a de premières hypothèses qui sont émises, qui existent.
Oui, le président Lula l'a évoqué dès son discours de dimanche. C'est notamment le secteur de l'agro-business et tout ce que je peux lire depuis deux jours, que ce soit de journalistes ou bien de juges, corrobore le fait qu'effectivement ce secteur aurait participé au financement de notamment la location des bus qui se sont rendus à Brasilia. Hein. Ces bus sont arrivés d'à peu près tout le Brésil. Le fait que sur Telegram avait circulé un message disant que les manifestants, ceux qui se rendraient à Brasilia, je ne peux pas les appeler des manifestants, seraient transportés, nourris et logés. Donc cela suppose une logistique et un financement. Cela fait déjà plusieurs mois que tant le secteur de l'agrobusiness que certains chefs d'entreprise, je pense notamment au patron d'une chaîne de magasins qui s'appelle Avin, qui est un très proche de Bolsonaro et qui ne s'est jamais caché de financer notamment les campements de bolsonaristes devant les quartiers généraux militaires un peu partout dans le Brésil qui ont surgi après le second tour. Donc ça va être cela que l'enquête va devoir déterminer, c'est qui a financé, comment. Et l'autre question de la responsabilité, c'est par exemple les députés et les sénateurs bolsonaristes qui ont publié des vidéos, qui ont publié des messages sur Twitter, donc à découvert, hein, en tant que députés, en tant que sénateurs, pour encourager les bolsonaristes à marcher sur Brasilia.
Et il y a d'ailleurs aussi sur les responsabilités des mandats d'arrêt qui ont été émis de hauts responsables visés, notamment au sein de la police, au sujet de laquelle d'ailleurs les Brésiliens s'interrogent.
Ils n'ont pas fait leur travail. Les responsables doivent maintenant être punis.
Mais les images que nous avons
vues, je vous le dis, je l'ai vu. Les policiers n'ont rien fait pour empêcher ce qui s'est passé.
Voilà, il y a la question de la réaction, du manque de réactivité des policiers face au saccage dimanche. Et puis, il y a la question plus générale aussi de l'implication. Ça, c'est un vrai sujet qui monte, tu me disais, Julien, au Brésil. Hein.
Ah oui, ça c'est vrai. C'est la première chose qu'on m'a dit en arrivant. C'est-à-dire la police n'a pas fait son travail. Alors la police, il y a beaucoup de strates dans la police. Il y a une police militaire, une police fédérale, une police, etc. Mais en tout cas, les forces de l'ordre qui sont aujourd'hui très présentes, qui encadrent la zone et qui coupent toutes les artères. Faut imaginer que Brasilia, c'est une suite d'immenses avenues de six voies qui se croisent, etc. C'est une ville un peu spécial, très spécial, d'un point de vue architectural. Et donc, toutes les artères sont bloquées par des voitures de police, etc. aujourd'hui. Donc, on sent les forces de l'ordre extrêmement présentes aujourd'hui. Mais toutes les vidéos montrent, énormément de vidéos montrent que bien, les policiers ont préféré prendre des selfies avec des manifestants, que dans les manifestants, il y a un colonel de réserve, des policiers, ce qu'on pourrait appeler, nous, policiers municipaux. Enfin, en tout cas, il y a comme ça. Et puis, de plus en plus, ce qui monte, c'est la bolsonarisation ces dernières années de toutes les strates des forces de l'ordre et qui serait, comment dirais-je, très politisé. Et ça, je pense que c'est prouvé par les recherches. Quoi.
Peut-être juste une explication un peu brève, Juliette Dumont. Police militaire, police fédérale, en fait, il y a plusieurs strates, c'est ça?
Oui, comme en France, en fait. Hein. On peut faire la distinction entre la police nationale et la gendarmerie. La police fédérale, elle obéit directement aux ordres du gouvernement national. Votre collègue Bruno Meyerfeld dit que c'est un petit peu l'équivalent du FBI. La police fédérale, c'est une bonne comparaison. La police militaire, donc, est chargée du maintien de l'ordre. Cette police militaire, elle dépend, et qui compte hein, 500 000 agents dans le Brésil, elle est placée sous le commandement des gouverneurs des 27 États que compte le Brésil. Hein. Le Brésil est un État fédéral. Donc, Elle est placée sous le commandement des gouverneurs, mais c'est une police militaire. Donc, par exemple, il y a le fait que les policiers qui commettent, par exemple, des homicides, ne sont pas jugés par un tribunal civil, mais par un tribunal militaire. Donc, il y a plusieurs choses là, encore une fois, de court, de moyen et de long terme. À court terme, il y a la responsabilité du gouverneur du district fédéral de Brasilien, donc Ibanez Roche, bolsonariste, et de son secrétaire à la sécurité publique, Anderson Torres, lui aussi bolsonariste, il a été ministre de la justice de Bolsonaro. Et ces deux personnages avaient des responsabilités de maintien de l'ordre et n'ont pas pris leurs responsabilités. Ibanez Rocha a été averti par les services de renseignement qu'il y aurait des manifestations, et des manifestations qui seraient tout sauf pacifiques, et le gouverneur les a ignorées. Le ministre de la Justice de Lula, Flavio Gino, avait demandé à ce que la place des trois pouvoirs soit entièrement bloquée, et ce, au moins 3 jours avant le 8 janvier, et Ibanez Rocha a refusé. Donc il y a d'abord cette responsabilité-là, au niveau du gouvernement du district fédéral de Brasilia. Ensuite, vient d'être limogé aussi le responsable de la police militaire à Brasilia. Mm. La police militaire à Brasilia, c'est 10 000 hommes, parce que effectivement, c'est la capitale et qu'il faut un contingent important pour assurer la sécurité. Il n'y a que quelques centaines d'hommes qui ont été envoyés à la place des trois-pouvoirs, donc nettement, un contingent nettement insuffisant par rapport aux manifestations qui s'annonçaient et au nombre qui était attendu. Et ensuite, ce que l'on a constaté, c'est la connivence, la complaisance des policiers présents sur place avec ces personnes séditieuses. Et là, cela renvoie au profil politique de la plupart des policiers militaires, où effectivement la politisation en faveur du bolsonarisme s'est accentuée ces 4 dernières années, puisque le gouvernement de Bolsonaro leur a été très favorable. Donc ça a été, par exemple, l'augmentation de leur retraite, l'augmentation de leur prime, le fait que les quelques règlements et lois qui encadraient l'usage de l'arme, et notamment des armes, et notamment l'usage létal, toutes ces, ces garde-fous ont été levés par Bolsonaro. Donc forcément, on a une police militaire qui lui est très favorable. Et ensuite, sur le temps long, donc, cette police militaire, elle a été créée sous la dictature militaire, dans le but notamment d'arrêter et de faire disparaître les opposants au pouvoir militaire. Donc une police qui est née dans un État qui évidemment ne respectait pas le droit et les droits humains. Et cette police militaire, elle s'est aussi donnée comme mission pendant la dictature de nettoyer le corps social. Donc on a vu surgir des escadrons de la mort, non seulement donc des rangs de cette police militaire, non seulement contre les opposants au régime, mais aussi contre les habitants des rues, par exemple. Donc on a eu ce qu'on appelle au Brésil des chacinas, donc des assassinats, des massacres perpétrés par cette police militaire contre des gens habitant les rues, notamment des enfants. Et lors de la redémocratisation, l'organisation et la culture, la formation de cette police militaire n'ont pas été remis en cause. Et cette police militaire a continué à agir depuis 30 ans comme si elle était encore dans un état de non-droit. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, je parle de péché originel de la démocratie brésilienne et d'une culture de l'impunité qui coûte aujourd'hui très cher aux institutions.
Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui que Lula, qui a donc pris ses fonctions en tout début d'année 2023, peut réellement faire confiance aux forces de sécurité sur lesquelles il est censé pouvoir s'appuyer ? Est-ce que la police militaire, la police fédérale et l'armée même, devant laquelle, vous l'avez dit, il y a eu des casernes et des campements de bolsonaristes devant ces casernes pendant plusieurs semaines, après le second tour, est-ce que Lula peut encore s'appuyer sur cette institution sécuritaire-là ?
C'est la grande question d'aujourd'hui. Donc là, il y a un nettoyage qui est en train d'être fait à la tête de la police militaire, à la tête de la police fédérale, et notamment tous les responsables de la police fédérale qui avaient été nommés par Bolsonaro sont en train d'être écartés au profit de personnes de confiance. Mais cela va demander d'une part beaucoup de fermeté de la part de Lula, de son gouvernement et d'un appui total de la Cour suprême, mais aussi du pouvoir législatif, et ça, ce n'est pas gagné. La capacité aussi pour Lula d'apparaître réellement comme le commandant en chef face à une armée qui a une longue tradition au Brésil de participation à la vie politique. Alors évidemment, il y a les périodes où c'est plus qu'une participation, c'est la prise du pouvoir, entre 64 et 85, mais il existe au Brésil ce qu'on appelle un parti militaire. Ce n'est pas un parti politique défini, mais un certain nombre de personnes qui sont proches de l'armée, voire qui sont issues des rangs de l'armée, et qui font de la politique et défendent les intérêts de l'armée. Et l'un des mauvais signaux envoyés par Lula, c'est d'avoir nommé comme ministre de la Défense quelqu'un qui est issu en fait de cette mouvance du parti politique, du parti militaire, José Múcio. Mais José Múcio, c'est quelqu'un qui, lors de son investiture comme ministre de la Défense la semaine dernière, en parlant des campements bolsonaristes devant les casernes militaires, disait « ce sont des actes démocratiques et d'ailleurs j'y ai des amis et des membres de ma famille ». Donc c'est très problématique. Et le problème, c'est la marge de manœuvre assez réduite de Lula, qui est arrivé au pouvoir grâce à une coalition de partis très large et très hétéroclite, avec des intérêts très divergents. Et il ne peut pas, il a composé un gouvernement qui reflète cette coalition très hétéroclite. Et José Múcio fait partie des gens qui vont poser problème et qui posent déjà problème.
Julien, une dernière question. Tu évoquais la sécurité toujours en place dans les rues de Brasilia. On entendait aussi dans la voix de celles et ceux que tu as pu rencontrer une forme de détermination à poursuivre cette forme de mobilisation. Est-ce qu'il y a des craintes encore aujourd'hui de nouvelles manifestations et de nouvelles violences ?
Vu l'ampleur du dispositif policier, je présume que oui. Quand on discute avec des partisans de Jair Bolsonaro, on comprend que un nouveau coup d'État, une nouvelle tentative de coup d'État comme ça a été le cas dimanche, va être difficile. Puisque maintenant le travail, notamment le travail de démantèlement des campements, etc., a été entamé. Mais la mobilisation va se continuer d'une autre manière. Et c'est un petit peu ça qu'on va étudier maintenant et l'inconnu des semaines et des mois et des années à venir. C'est quelle forme va prendre la contestation. Mais quoi qu'il en soit, le mouvement va continuer. Ou alors peut-être que les personnes qui ont été arrêtées portera un coup définitif au mouvement, mais ce n'est pas du tout ce qui remonte des personnes que j'ai pu interroger depuis quelques jours.
Juliette Dumont, la tranquillité, la sérénité au Brésil et pour le gouvernement et l'exécutif de Lula, ce n'est pas pour tout de suite.
Les mots d'ordre appelant à poursuivre la lutte et à poursuivre les actions pullulent sur les réseaux sociaux. Et Bolsonaro lui-même a publié un tweet pour soutenir ses partisans et toutes leurs actions démocratiques. Il a ensuite effacé ce tweet, mais cela montre bien que Bolsonaro continue de jeter de l'huile sur le feu, et il n'est pas le seul. Hein. Encore une fois, des députés et des sénateurs bolsonaristes, donc des élus de la République brésilienne, continuent de soutenir les actions pour la démocratie, avec beaucoup de guillemets, et pour réclamer un recomptage des voix, et qui continuent de dire que le résultat est truqué. Il y a aussi toute une rhétorique sur le fait que les arrestations qui ont été menées, les décisions de justice, sont de la part du gouvernement une forme de persécution. Donc, vous voyez, les choses sont très très loin d'être apaisées, et les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines vont être déterminantes.
Oui, et c'est donc une rhétorique et une propagande qui alimente ce mouvement au Brésil. Merci à vous, Juliette Dumont, maîtresse de conférence à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et à toi, Julien Fautra, envoyé spécial de RTL au Brésil, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.